La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Au début du XXe siècle, Chicago était déjà une ville extraordinaire, une ville réflexive, une ville qui se pensait elle-même comme aucune autre au monde au même moment. La preuve, deux écoles majeures y ont simultanément vu le jour autour de l'objet ville lui-même. Non pas tant des écoles au sens institutionnel du terme que des mouvements de pensée et de création, et non des moindres. D'une part, la plus connue sans doute du grand public, l'école d'architecture de Chicago, dont le chef de file Frank Lloyd Wright est devenu l'un des architectes les plus célèbres du siècle. D'autre part, la plus connue peut-être des auditeurs de la suite dans les idées, l'école sociologique de Chicago, à laquelle on associe spontanément le nom d'un des fondateurs de la discipline, Robert Park, auteur en 1925 avec Burgess d'un livre devenu classique de la sociologie urbaine, The City. Pourtant, et depuis plus de 30 ans que je m'intéresse à ces deux écoles, la chose n'a cessé d'être un grand mystère pour moi. Il semble bien qu'elle n'ait entretenu aucune espèce de relation. Comment expliquer que ces deux courants de pensée et de création attachés au même objet, la ville, et qui se sont précisément développés au même moment dans la même ville, ne se soient pas, fût-ce au détour d'une rue, jamais croisé. C'est la lecture du nouveau livre d'un autre grand sociologue, né lui aussi à Chicago, mais deux générations plus tard, qui vient enfin apporter la réponse. Ce sociologue, c'est Richard Sennett. Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. C'est une architecte et curatrice qui nous rejoindra pour la seconde partie de l'émission, Océane Ragoussi, qui viendra tenter de répondre à cette question au centre de ce nouveau livre, Bâtir et habiter, et toi, tu ferais quoi ? Alors avant de commencer à répondre à cette question, et toi, tu ferais quoi ? Sous-entendu, et toi, tu ferais quoi ? De la ville ou dans la ville, Richard Sennett, je voudrais qu'on parte de cette ville de Chicago, où je le rappelais, vous êtes né, vous avez passé beaucoup de temps, mais qui nous offre un bon exemple, au fond, pour poser la question, l'une des questions centrales de votre livre, qui permet de comprendre la différence entre ville et cité. Au fond, si ces deux écoles ne se sont jamais rencontrées, expliquez-vous, c'est parce que l'une s'intéressait à la ville et l'autre à la cité.
Oui, exactement. C'était un problème d'être pas aveugle, mais de n'intéresse pas à des questions l'un à l'autre. Et c'est un contraste, par exemple, à Corbusier, qui est de la même génération, qui a fait une liaison entre la ville et la cité. Mais cette séparation, ce manque d'intérêt d'un côté à l'autre, est quelque chose qui devient dominante maintenant. C'est Chicago au lieu de Corbusier qui maintenant domine nos pensées de la ville.
Mais si on veut essayer de mieux comprendre, c'est quoi la différence entre une ville et une cité? C'est une différence qui donne son titre à votre livre, « Bâtir et habiter ».
Oui, c'est une question de formation et aussi de conscience. La formation d'un architecte, d'un urbaniste, est pour la plupart technique. Et la formation d'un sociologue est verbale au lieu d'être visuelle. La préparation est tout à fait différente. La différence en conscience, c'est que pour l'urbaniste, comme Frank Lloyd Wright, de faire lieu, de faire quelque chose qui est concret, matériel,
construit,
est décisif pour les voies d'y habiter. C'est-à-dire que c'est une détermination physique de la vie sociale. Mais pour les sociologues, et ça pour moi, dans ma formation, c'était pris absolument comme donné, que le mode de vie doit déterminer comment bâtir.
La relation est inversée, au fond.
Inversée. Donc c'est une séparation. Et maintenant, chez les Chinois, les architectes font des énormes projets avec aucune connaissance sociale. Et les partis politiques et sociaux en Chine ne soucient pas la question de la forme physique.
Donc là encore, on a un grand divorce entre la ville
division.
Et la cité. Avant d'en venir à la Chine, d'en venir aussi à l'Inde, d'en venir peut-être à l'Amérique latine, enfin beaucoup de régions que vous avez visitées à la faveur de projets divers et variés, Richard Sennett, je voudrais qu'on fasse avec vous le détour historique que vous faites à propos de la ville. Pas un détour très lointain, il ne s'agit pas de revenir à la Renaissance ou grec, en effet, mais de venir au 19e siècle, au moment, au fond, où la ville, telle qu'on la connaît aujourd'hui, naît. Et vous vous y arrêtez avec ceux que vous appelez la grande génération des urbanistes. Trois figures qui sont chacune rattachées à une ville. Cerdà pour Barcelone, Olmsted pour New York, et puis, plus connu évidemment en France, Haussmann pour Paris. Pourquoi avoir fait ce détour historique par ces trois figures?
Parce que tous les trois privilégient le plan au lieu du projet. Ils sont une génération qui est concentrée sur la forme de la ville au lieu de projets particuliers. Même Haussmann, qui est une figure assez ironique, parce qu'il est un homme très, très conservateur qui a ouvert la ville. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose à recouvrir, une vision de la ville totale, comme si ce grand fondateur,
chacun à sa manière.
Oui, oui.
Très différent.
Cerdà, c'était un socialiste, un contraste total de l'esprit politique avec Haussmann. Mais le problème pour nous, c'est que cette vision communautive est disparue. L'urbanisme aujourd'hui, c'est un urbanisme des projets. Et c'est le public qui perd de cette particularisation. C'est pourquoi j'ai fait ce détour au passé.
Alors, détour au passé, vous avez cité le nom déjà, qui nous amène aussi du côté de Le Corbusier avant la Seconde Guerre mondiale, avec là, pour le coup, un plan systématique, un plan
rationaliste,
qui est un peu effrayant, il faut le dire, le plan voisin. C'est pas ça que vous prenez, Richard Sennett, même si vous prenez un retour à un équilibre entre le plan et le projet.
Oui. Dans mon livre, la chose dont je suis sensible, c'est qu'il y a toujours une contradiction, un conflit entre les moyens de bâtir et les moyens d'habiter. Et c'est pas simplement une question, comme pour Corbusier, de bâtir afin de déterminer le mode de vie. Mais de l'autre part, il y a le gated community, par exemple, aujourd'hui.
Les communautés fermées, les lotissements qui se barricadent, en quelque sorte.
C'est ça qu'une grande partie du public veut à ce moment. Ce serait une faute éthique pour l'urbaniste de le faire, de satisfaire ce désir de reculer. Donc mon livre, à l'actualité, c'est comment, du point de vue éthique, bâtir et habiter dans un moyen ouvert au lieu de fermer. C'est mon souci avec ce livre.
C'est votre souci par lequel vous terminez ce livre, cette question éthique. Mais ce livre, et la force de ce livre, c'est la manière dont il prend son élan dans l'histoire, dont il bascule avec des figures que vous avez eu la chance de connaître et qui ont été importantes et qui vous passent le relais en quelque sorte, qui vous passent le relais et qui vous font hériter d'une question qui... alors ces deux figures, ce sont des urbanistes qui ont été en conflit à propos de New York.
Ah oui, Jane Jacobson et Lewis Mumford, oui. Mumford a l'idée d'une ville, une ville totale. Jacobs favorise la communauté petite. Et à part de leur conflit personnel, professionnel, c'est Mumford qui est, à cause de ce socialisme urbain, et à ce moment oublié. Quand Jacobs est célébré, c'est une sorte de romantisme de communauté. Et bon, j'étais ami avec elle depuis longtemps, mais toujours ça me gêne, l'idée qu'une ville est une communauté. C'est plus que ça. C'est un espace où on est libre parce qu'on est anonyme. Et pour elle, c'était terrible, cette idée. Donc, on a beaucoup de conflits. Mais entre les deux, Mumford, à cause du fait qu'il est socialiste, et Jacobs, elle était un esprit plus capitaliste, ils ont gagné, parce que le socialisme, jusqu'à l'arrivée de Bernie Sanders, le socialisme chez nous était faible. Et lui, il a souffert pour cette diminution de l'intérêt d'une ville totalement faite par des principes socialistes.
Alors cette question de l'anonymat, de l'individu dans la ville, des masques, vous la faites remonter à des débats sociologiques importants, notamment autour des écrits de Georg Simmel, qui a été le directeur de la thèse de Park dont je parlais tout à l'heure. Oui. Et donc il y a là une tradition sociologique importante, une manière de penser la ville qui continue de vous inspirer, Richard Sennett.
Oui, ça m'inspire beaucoup. C'est ça, l'origine est la phrase allemande « Stadtluft macht frei ». Et ça veut dire qu'on est libre dans la ville parce qu'on est inconnu. On est libéré des liens de tradition,
de voisinage,
voisinage, d'origine, tout ça. Et pour moi, ça fait la ville ouverte. On est libre. On peut être, on peut créer une vie parce qu'on n'est pas obligé à faire partie d'une communauté. Et ça, pour Zimmer, comme pour Park, comme pour Hannah Arendt.
Qui fut votre professeur aussi.
Qui était mon professeur. Et même, je crois, pour Levinas. Ça, c'est l'idée de la liberté, d'être inconnu.
Alors, vous vous êtes intéressé dans le début de ce livre à des villes américaines, à des villes européennes, mais après, vous prenez l'avion.
C'est mon histoire horrible.
Vous prenez l'avion et vous rencontrez des gens qui vous font découvrir des villes immenses, souvent, des villes qui posent des questions similaires et parfois différentes de celles dont on a hérité. Alors, moi, j'aimerais que vous nous parliez de Monsieur Sidhu, qui vous rencontrez en Inde et qui vous permet de comprendre à Delhi un certain nombre de choses sur les lieux et sur la manière d'habiter ces lieux.
Je dois expliquer, j'ai consulté presque toute ma vie pour l'ONU.
Vous avez été consultant auprès de l'ONU, oui.
Oui.
Et vous continuez d'ailleurs aujourd'hui autour des questions climatiques et de ville.
C'est autre chose. Mais j'avais voudrais balancer une carrière académique avec des consultations pratiques. C'est pour moi.
Maintenir une sorte d'équilibre entre
moi de me provoquer ma pensée, tout ça. Mais la chose que je me frapperait et que je posais dans le livre, c'est comment les villes énormes qui commencent à être construites aujourd'hui sont l'écho des villes comme Paris ou New York. Et c'est une question pratique parce que l'urbanisme qui est appliqué aux villes nouvelles est celle de l'Ouest. Il n'y a pas un urbanisme local, disons, spécifique des conditions en Inde ou en Chine.
Alors en Inde, justement, Monsieur Sidour...
Ce monsieur qui... C'est quelqu'un qui vend des produits illégaux, électroniques. Mon mobile, et j'ai acheté de lui sans taxe, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui m'intéressait parce qu'il a fait des conditions fluides et informelles de la ville un mode de vie. Et la question pour moi, c'est quelles sont l'infrastructure d'un espace qui permet l'entreprise informelle ou la surveillance de quelqu'un comme Monsieur Soudir, qui est un homme qui c'est un criminel, enfin. Comment il peut souvenir dans une ville? Et est-ce qu'il y a des questions d'urbanisme, d'architecture, de planification qui lui donneraient une meilleure vie?
En tous les cas, il y a un espace dont il profite et qui lui permet une certaine forme de mobilité sociale. Parce que c'est des questions aussi d'inégalité, de croissance que vous posez à travers ces exemples.
Il est le symbole de la relation entre l'informalité et la mobilité sociale. Et ça, c'est une question qui est partout dans les villes nouvelles. Comment protéger, bâtir une ville, cette occasion de conduire une vie informelle au lieu d'une vie qui est réglée. Parce que ça, la vie réglée pour la grande majorité des habitants des villes nouvelles est une ville qui est supprimée ou ils sont en prison. Donc la formalité, c'est de vivre une vie informelle, c'est de sortir d'une prison dans ces villes. C'est une question à Lagos, par exemple.
Au Nigeria.
Nous travaillons à l'ONU à ce moment en Colombie, a ouvert la possibilité d'être libre. C'est pas joli, c'est pas légal, mais c'est le mode de survivre.
C'est la manière de survivre pour beaucoup de ces gens qui habitent ces villes. Autre contexte, autre exemple qui vous permet de poser ces questions, autre contexte politique aussi, celui de la Chine, qui sort de sa période communiste s'ouvrir à quelque chose pour lequel on n'a pas vraiment de nom, dans laquelle le capitalisme joue un rôle de plus en plus important, mais où la surveillance des citoyens demeure extrêmement forte aussi. Et là, c'est à travers une autre figure, Madame Q, que vous rencontrez.
Ah oui, Madame Q était un des planificateurs de Shanghai. Et elle a détruit une forme de vie commune qui s'appelle le Shikomen. Et elle l'a détruit, et puis elle a regretté le mode de bâtir quelque chose de plus normal, plus...
Occidental.
Et
une version du plan voisin de Corbusier, d'une certaine façon, avec des tours.
Oui, elle était influencée beaucoup par... comme beaucoup de planificateurs, des urbanistes en Chine. En tout cas, là, je l'ai connu assez bien. Et la chose qui m'intéressait, c'est son regret. C'est quelque chose qui n'arrive souvent aux gens avec pouvoir de regretter
leurs actions, leurs décisions.
Oui, et de l'avouer en public. Je dois dire que c'est à cause en partie d'elle que j'ai formulé 5 moyens de faire une ville plus ouverte dans ce livre.
La deuxième partie du livre, oui. La suite qui est au fond la réponse à cette question.
Oui, mais c'est une réaction à l'échec de l'urbanisme qui est transplanté de l'ouest à l'est. Et c'est pas quelque chose qui est une rêve de ce que doit être, mais une pensée, une réflexion sur des problèmes que nous avons échoués, qui sont en train d'être répétés chez les Chinois, chez les Indiens et en Amérique du Sud.
Alors, vos 5 moyens, peut-être on peut y revenir sur certains, mais au fond, c'est vrai qu'ils s'appuient à la fois sur la volonté de toujours penser ensemble la ville et la cité, et sur l'expérience et les leçons tirées des échecs rencontrés ici et là, Richard Sennett. Alors, quels sont ces moyens pour concevoir ou faire en sorte que se produise une ville ouverte?
Je crois que le plus important pour nous, à Paris ou à Londres, c'est de la recherche de la porosité.
On dirait la porosité, oui.
Porosité, c'est-à-dire une ville qui entremêle des éléments, des personnages, des fonctions.
Et c'est une ville de membrane.
De membrane. Mais ça veut dire qu'au lieu de penser du centre, on doit penser des marges comme le site le plus important pour pratiquer, pour ériger la porosité. Et en Paris, par exemple, le périphérique est un désastre du point de vue de l'ouverture de la ville. Parce que c'est une marche qui est fermée, dure, difficile à pénétrer. En Shanghai, c'est la même chose. Le périphérique a été refait, c'est répété.
Les nombreux périphériques, parce oui, qu'en fait, ils sont concentriques oui. autour de la ville.
Ils sont des
cercles.
Des cercles, l'un à l'autre, du même à Pékin. Donc, pour moi, le point de départ doit être la porosité qui donne à la ville complexité au lieu de clarité. Que l'urbanisme doit chercher d'enrichir l'expérience au lieu de la clarifier.
La ville doit devenir illisible. D'ailleurs, c'est peut-être la meilleure chose qu'elle puisse faire pour produire par ailleurs de la bonne littérature, comme au 19e siècle, quand elle était proprement illisible. Vous citez aussi ce lien entre ces romans du 19e siècle et le Paris ou le Londres ou les villes russes avec Dostoïevski, Richard Sennett. Mais il y a une question par laquelle j'aimerais qu'on termine cette première partie de l'émission, qui est celle de l'ouverture vis-à-vis des étrangers. Vous remarquez, non sans malice, que cette dans la ville qui avait commandé ce texte célèbre à Georg Simmel dont nous parlions tout à l'heure, Dresde, qui a eu lieu les manifestations terribles de Pegida comme forme extrême et violente du rejet des étrangers et des autres dans la ville, de tout ce qu'il ne faut pas faire au fond dans les villes.
Quand, aux années 90, je suis fait partie d'un projet d'intégrer les réfugiés de guerre en Balkans, en Suède. Les Suédois sont très ouverts, ils ont reçu une énorme foule de réfugiés. Mais après, ils sont logés à l'extrême périphérie des villes, pas Stockholm et des autres villes. C'était une faute énorme. Et là, quand je parle de porosité, ça applique relation avec des immigrés et des réfugiés, que la tâche doit être de les intégrer du point de vue de vie quotidienne, pas des moyens simplement bureaucratiques ou de l'État, donner des standings formels. Mais c'est une question d'éviter le problème en Suède qui était que ces réfugiés restent réfugiés, séparés, isolés. Donc pour moi, c'est un symbole de recherche de la porosité dans des villes, comment les recevoir au sein de la ville, c'est veut dire au sein de la cité.
Et aussi les recevoir peut-être pour une période limitée, parce que vous remarquez que les migrations dans le sud en particulier, elles sont temporaires, que les gens s'installent pour 5 ans, pour 10 ans.
Et puis quitter.
Ils vont dans une autre ville.
Oui, une autre ville. Oui, ça serait le chemin de migration à l'avenir.
Merci Richard Sennett. On vous retrouve dans la deuxième partie de l'émission pour dialoguer avec une architecte et curatrice, Océane Ragoussi, qui nous rejoindra. On écoute d'abord un extrait d'un rappeur qu'on aime bien, la suite dans les idées, parce qu'il vient notamment de Chicago, Saba.
Sweet West Side Chicago, two flat apartment, red brick and garden that's been forgotten. Grass all splotchy, vacant lot splotchy, bank account splotchy, and we talk like we from the south. Our parents from the south. And if I make $1 million, I'll vacation in the south and I'll smile, 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 smile. Playground, grandma, apparel cut. Yeah, cut up with my cousins, dream about when we grew up. Yeah, two sides slipping off our feet, our souls is hella black. When we die, we go to heaven. No, my granny told me that. Oh, 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 oh. I done lost a friend or two, they moved. Got in trouble for they French and I ain't mean no Moulin Rouge. My backyard that 2-on-2, our whole neighborhood unite. I put my fam in a hotel when they couldn't pay the light. Life I be taking for granted, capture the moment, the cannon. My cousin be trapping, it came in the mail. I set him down, it's his plan, he said this shit selling sale. Grandma say, what is that smell? We turn the boom, how? Like me on King of the Hill. Niggas talk that they gon' keep it 100, but I'd rather keep it a mill. Everybody eat, I treat it like heat, so that mean it's not a joke. I said I'ma keep it the mill, the rule, that mean the high. No, my grandma from Pink Hill and my granddaddy from Houston. And if I make $1 million, then I'ma tell him we moving.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Le rap de Saba, une musique ouverte pour une ville ouverte. Richard Sennett, on est rejoint par Océane Ragoussi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte, vous êtes curatrice, et vous êtes au croisement de beaucoup de pratiques qui touchent les sujets qu'on a abordés avec Richard Sennett depuis le début de l'émission. Vous êtes une drôle d'architecte parce que vous construisez pas vous-même, vous dessinez pas même, mais vous cherchez à ouvrir au maximum, à décloisonner les pratiques, à travailler, j'imagine, avec des sociologues, mais aussi avec des artistes, peut-être avec des rappeurs, sait-on jamais.
C'est exact, pas directement des rappeurs, mais en tout cas je m'intéresse à l'objet au rap comme musique actuelle. Il se trouve que je partage mon activité entre une activité de curatrice, curatrice étant un mot assez compliqué puisque c'est le seul que j'ai trouvé qui corresponde à peu près à ma pratique, et en tant qu'architecte où je travaille avec l'agence TVK, une agence d'architecture et d'urbanisme parisienne, bien connue notamment pour le réaménagement de la place de la République. Un grand espace ouvert lui-même. Le rap, oui, c'est un vrai sujet aujourd'hui. J'avais travaillé notamment il y a quelques années avec une autre curatrice, Laura Morschkin, sur une exposition qu'on avait intitulée Seine-Saint-Denis Style, comme le morceau fameux de NTM qui date de 1998. Et on avait cherché au travers de ce titre à rassembler des artistes qui travaillaient, vivaient ou avaient pris la Seine-Saint-Denis comme sujet afin d'essayer de voir si un style propre à la Seine-Saint-Denis était possible et qu'est-ce que ça signifiait. Donc on avait créer cette confrontation entre ces différents artistes, le fait de résider, de travailler ou de prendre ce territoire comme objet étant quelque chose qui nous permettait de les rassembler. Aujourd'hui, la question du Grand Paris est quand même centrale pour moi dans ma pratique, pour les architectes avec lesquels je travaille et pour pas mal de gens, bien entendu. Cette question de l'identité d'un territoire est complètement remise en question, puisque le Grand Paris, c'est tout un tas de départements, Paris étant inclus, c'est vrai que cette question de l'identité est multiple. On est vraiment à un moment de rupture et de basculement. Vous parliez du périphérique tout à l'heure, que vous voyez comme un espace de frontières et de clôture. TVK, avec qui je travaille, a beaucoup travaillé sur le périphérique, notamment écrit un livre qui s'appelle Nos limites, une étude d'insertion du périphérique de Paris, et explique que ça peut être vu comme une rupture, mais pas que, c'est aussi un espace de beaucoup de porosité, le périphérique étant un espace, une infrastructure extrêmement forte qui a été créée dans un contexte social et politique à une certaine époque, mais que pour autant aujourd'hui il permet à la fois d'être le plus grand espace ouvert de Paris, un espace où il y a beaucoup d'espaces verts, une biodiversité qui est l'une des plus riches de Paris, puisqu'il y a beaucoup de délaissés et d'espaces qui ne sont pas accessibles, et qui est potentiellement un espace avec d'énormes qualités à partir du moment où on envisage aussi que les mobilités vont être transformées et vont changer dans les années à venir. À partir du moment où il n'y aura plus de voitures polluantes, où les modes de mobilité se transforment, où on ne se déplace plus de la même manière, quel est le statut de cette infrastructure et de quelle manière est-ce que elle vit cette transformation? Je pense que c'est une vraie question.
Le périphérique peut-il devenir une membrane en quelque sorte? Ah oui. Pourrait-on formuler ainsi la question?
Peut-être. Je ne sais pas la situation à Paris particulière. Mais est-ce que c'est possible que c'est à cause du fait que c'est laissé de s'arranger dans une manière plus informelle par le pouvoir que la concentration auparavant sur le centre donne une certaine liberté aux gens qui sont laissés hors de la concentration du pouvoir, de vision de pouvoir. Ça, c'est certainement la situation en Chine et en Inde, que on a oublié le périphérique et ça donne aux gens qui habitent au périphérique une certaine liberté d'agir. Je ne sais pas si c'est le cas ici.
Océane Ragoussi.
Probablement, il y a tout un tas de projets qui ont pour ambition de réduire les endroits où le périphérique peut être une frontière. TVK travaille en ce moment notamment sur la transformation de la porte de Montreuil, qui est une porte qui est très spécifique, notamment parce qu'il y a une place avec un grand trou qui est difficilement traversable à pied, etc.
Il y a des projets aussi entre Ivry et le 13e arrondissement qui sont un autre environnement.
Exactement, il y a tout un tas de projets qui visent à faire ça. Aujourd'hui, avec le Grand Paris Express, le nouveau métro du Grand Paris, ces questions sont aussi prennent une autre échelle et une autre dimension. Et tout à l'heure, on parlait de l'identité de la Seine-Saint-Denis. On écoutait un morceau de rap tout à l'heure. Ce qui me questionne aussi par rapport à ça, c'est l'envie de certains rappeurs, comme le rappeur Medine, qui il y a 2 ans a fait un morceau qui s'appelle Le Grand Paris. Il a réuni 6 ou 7 autres rappeurs avec lesquels ils ont fait un morceau qui dure 8 minutes. Le refrain étant la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Et ça, pour moi, c'est une des questions centrales, c'est une question importante. C'est de quelle manière est-ce que les musiques actuelles, la culture populaire peut nous informer, nous aussi, en tant qu'urbanistes, sur des manières de faire, de travailler et de considérer cette nouvelle manière de voir la ville.
Là, vous lancez Richard Sennett sur l'autre grande passion de sa vie, à côté de la ville, la musique.
je dois mentionner que Nous avons établi à Londres et à Paris une groupe qui s'appelle Théâtre Mundi, dont tous les trois sont membres, pour encourager les jeunes artistes et les jeunes urbanistes d'être ensemble et faire des projets. Mais pour moi, la question, c'est une... Dans ma pensée, dans ma pratique, des tels projets comme Théâtre Mundi sont importants comme moyen d'intégrer les gens à travers la ville. Et que l'usage des arts, c'est pas de faire une art populaire, seulement populaire, mais un art que tu peux partager, dans lequel tu peux partager. Et c'est une des raisons que j'insiste dans mon livre de présenter des phénomènes artistiques comme une clé à voir dans la chambre de la ville. Et avec mes étudiants, j'ai insisté, vous savez mieux la ville par sa musique que par ses rues, ses infrastructures. Pour avoir une idée comment habiter la ville, il faudrait pénétrer à ses expressions quotidiennes. Et ça fait partie d'une éducation d'un urbaniste à MIT, normalement.
C'est-à-dire un rapport ouvert au monde, Océane Ragoussi, qui est le contraire de certaines conceptions de la ville intelligente. Richard Sennett, dans son livre, oppose deux manières d'être intelligente, entre guillemets, pour les villes. Une manière très Google, très fermée, oui. Et puis une manière plus MIT, plus ouverte en quelque sorte.
Oui, et dans ma pratique, c'est quelque chose que je cherche à mettre en œuvre, notamment plus récemment autour de projets, disons d'entretien avec des métiers invisibles. C'est un travail que j'ai initié il y a quelques temps et j'ai réalisé des entretiens notamment avec le fossoyeur du Père Lachaise, récemment avec un nettoyeur de l'extrême. C'est un nettoyeur qui nettoie les scènes post-traumatiques. Plus récemment avec une croque-mort qui fait des pompes funèbres alternatives. Ces trois sujets étant des sujets plutôt mortuaires, ce n'est pas particulièrement mon intention, mais de proche en proche, disons que c'est là où ça m'a mené. Et ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière est-ce que la ville est ouverte aussi dans tout ce qui est invisible et qu'on ne voit pas forcément, oui. Même dans l'art, puisque on connaît cette esthétisation de la ville, soit vraiment très sale, les camps de migrants. Enfin, on a vu beaucoup d'images aussi très esthétisantes de la ville. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses invisibles dont on ne voit même pas d'image et qu'il est intéressant de questionner. J'avais travaillé dans un projet précédent aussi sur les pigeons. De quelle manière est-ce que la présence de pigeons dans un espace peut transformer véritablement la manière dont on l'approche, dont on l'aperçoit. Le pigeon étant un non-humain, clairement, et un habitant de certains espaces. Et on a, grâce au pigeon comme médiateur, on a réussi à déplacer beaucoup de choses et à emmener des gens aussi dans un vrai partage de leur quotidien au travers de la figure du pigeon, ce qui peut paraître pas très intéressant.
Oui.
Et il y a un sociologue que je pense que vous connaissez qui s'appelle Arnaud Esquéré, qui dans son livre, il a écrit un livre sur l'astrologie. Et dans l'introduction de ce livre qui s'appelle Prédire, il explique combien il s'est intéressé à des sujets qui semblaient familiers mais futiles à beaucoup de gens. Et de quelle manière est-ce que finalement cet intérêt pour des sujets familiers et futiles permet parfois d'explorer des champs qui n'ont pas encore été traités, lui, pour le coup, dans les sciences sociales. J'espère.
Par exemple, il a travaillé, il était venu parler de ce livre, mais sur les ovnis aussi, Arnaud Esquéré. Richard Sennett, peut-être, puisqu'on arrive au terme de l'émission, peut-on terminer par cette question de soucis éthiques de la ville, parce que vous avez choisi de conclure votre livre par cette question, qui est une question pratique aussi, pour quelqu'un qui, comme vous, a décidé, à côté de son travail de recherche et d'enseignement, de mettre les mains à la pâte de la ville, en quelque sorte.
Oui. Pour moi, c'est une question de comment faire pas simplement une ville, mais une vie qui est ouverte. Et ça veut dire une vie, une personne devient de plus en plus compétent à manager, à faire face à la complexité. Et c'est, bon, comme vous savez, ma pensée est fondée dans l'école pragmatiste. Et au cœur de l'école pragmatiste, c'est la question de l'expérience et comment enrichir l'expérience, l'enrichissait. Et le livre fait une partie d'une trilogie sur la question de comment homo faber, comment considérer l'homme ou des femmes comme des faisers au lieu d'être simplement des personnages qui vivent. Comment faire une vie. Et dans le premier, j'ai discuté l'artisanat.
Oui.
Et le second, la coopération. Et ici, c'est une question, comment faire une ville, afin que la vie ait élargir. Je suis très fatigué.
Comment faire une ville pour élargir la vie et pour enrichir l'expérience, pour reprendre ce mot pragmatiste, la tradition dans laquelle vous vous situez. Donc, troisième volet de cette trilogie, Bâtir et habiter, Richard Sennett. Un livre qui paraît aux éditions Albin Michel. On trouvera la référence sur la page de la suite dans les idées. On trouvera aussi peut-être des liens vers le travail d'Océane Ragoussi qui était avec nous pour cette émission. Vous pouvez, bien entendu, sur cette page également réécouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier. À la technique aujourd'hui, Bernard Laniel. À la réalisation, Marie Placé. C'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.